Merci. C'est un plaisir d'être là. On aurait pu faire ça en anglais. Julien aurait peut-être pu le faire en chinois. Et on a décidé qu'on allait rester en français pour pas augmenter la charge que vous devez tous éprouver maintenant que vous avez rejoint ce brillant établissement. Donc, je m'appelle Benoît Bergeret. Très rapidement, et on reviendra sur nos parcours respectifs, je suis co-directeur exécutif du MetaLab à l'ESSEC. On va vous parler rapidement de ce que c'est que le MetaLab.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'ESSEC. Julien Malaurent, donc je suis professeur en système d'information à l'ESSEC depuis maintenant 10 ans et je suis directeur académique, co-directeur académique du MetaLab. Enchanté et bienvenue.
Voilà, alors pourquoi on est là ce soir face à vous? Qu'est-ce que c'est que le MetaLab? Une petite intro pour répondre aux questions que vous avez certainement là-dessus. On est là ce soir face à vous à cause d'une conviction profonde de l'école qui a été forgée il y a quelques années maintenant et qui s'est concrétisée par la création du MetaLab justement. C'est que ce vaste ensemble de technologies qu'on appelle l'intelligence artificielle, et là, non seulement pour rester, mais pour pénétrer tous les aspects de notre vie. Et c'est un message que vous allez nous entendre répéter ce soir pas mal. La prise de conscience qu'on aimerait susciter chez celles et ceux d'entre vous qui n'en avaient pas encore conscience, c'est que ce sujet-là est un sujet absolument incontournable. Aucun d'entre vous, sauf peut-être à choisir le métier de la terre et encore, ou des métiers excessivement manuels et encore, aucun d'entre vous n'échappera à la présence dans votre environnement professionnel de la donnée et des systèmes de prise automatique de décision, d'apprentissage automatique basé sur la donnée, autrement dit ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. On y reviendra. Alors pourquoi le MetaLab? C'est parce que fort de cette vision, de cette conviction, l'ESSEC a choisi de se doter d'une petite équipe que j'aime décrire comme un centre d'expertise et d'influence, une sorte d'équipe commando dans laquelle nous sommes cinq. Et vous avez donc 60% de l'équipe dans la salle ce soir, entre Julien, moi-même et Déborah, qui est assise au premier rang ici. On est une sorte de commando et on intervient sur trois aspects à l'école, les étudiants et les programmes, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On travaille beaucoup à insérer les sujets de la data et de l'IA dans les programmes d'enseignement à la grande école et ailleurs, dans la formation continue également. Dans la recherche, c'est notre gros sujet, notre gros second sujet, parce que certains d'entre vous le comprennent déjà, mais ces technologies d'utilisation automatique de la donnée à grande échelle peuvent apporter un support extraordinaire aux chercheurs dans leurs analyses quantitatives et qualitatives, mais aussi parce que ces sujets, l'adoption de l'intelligence artificielle, ouvrent des problématiques nouvelles dans chacun des champs de recherche de l'ESSEC. Vous savez peut-être déjà qu'à l'ESSEC, il y a 150 professeurs-chercheurs permanents et beaucoup plus de professeurs vacataires, mais il y a 150 chercheurs qui font de la recherche sur des sujets comme les statistiques, comme la finance, comme l'économie, l'économétrie, le marketing, le management, la stratégie. Il n'y a pas un seul de ces domaines qui ne soit épargné et qui n'ait besoin de s'intéresser à l'impact de l'arrivée de l'IA dans ces domaines de recherche. Donc ça, c'est un second gros chantier pour le MetaLab et je vais finir avec le troisième gros axe de travail pour l'équipe commando que nous sommes, c'est de faire exister la voix de l'ESSEC, la nôtre au MetaLab, celle des profs et celle des étudiants, dans ce qu'on appelle la conversation publique au sujet de l'intelligence artificielle. Certains d'entre vous ont peut-être vu qu'il y a 3-4 ans, tout d'un coup, tout le monde s'intéressait à l'éthique de l'IA. Très bien, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui n'étaient pas des scientifiques durs, des ingénieurs, etc., qui parlaient de ça, parce que les gens qui s'occupent d'éthique ne comprenaient pas l'IA. Notre rôle, c'est d'être des gens qui ne sommes pas des scientifiques techniques à l'école, mais qui comprenons parfaitement bien l'IA dans sa nature et dans ses implications pour pouvoir derrière aller porter une parole et éveiller, enrichir la conversation publique. Par exemple, Julien a mené une étude dont il vous parlera un peu plus avec l'OCDE sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Julien a fait la partie France d'une étude globale qui est sortie il y a quelques mois, où on a écrit ensemble un papier, un petit livre, sur une sorte de guide pour l'adoption d'une IA responsable pour les dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire en Europe. C'est un bouquin en anglais que, si ça vous intéresse, on sera ravis de mettre à votre disposition. Voilà pour cette intro. Je pense que j'ai rien oublié dans l'intro de ce qu'on avait dit qu'on devait couvrir. Et donc, je vais passer la parole à Julien pour qu'il témoigne, et je ferai la même chose après. Vous êtes en début de formation. Vous avez peut-être une idée sur ce que vous voulez faire par la suite ou pas. Vous n'avez peut-être aucune idée de la manière dont l'intelligence artificielle va s'insérer dans votre projet. Et on pensait que de vous ouvrir nos histoires personnelles pourrait vous donner matière à réflexion.
Merci Benoît. Alors, j'ai la lourde tâche de vous présenter mon parcours, tout ça sans vous embêter trop longtemps. Simplement, moi aussi, je sors d'une prépa, ensuite j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, début des années 2000, et à l'issue de cette formation, il a été tout de suite évident pour moi que ça ne me convenait pas de rester dans simplement cette partie ingénierie technique. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de voyage, comme beaucoup, donc je suis parti en Chine. Je suis parti en Chine pendant 7 ans, enfin je devais y aller quelques mois et puis je suis revenu au bout de 7 ans. Je me suis installé à Shanghai. À Shanghai, à l'époque, il y avait énormément de possibilités de développement d'entreprise, mais aussi de compréhension de ce modèle culturel très différent. Et donc, j'ai passé du temps à apprentissage de la langue, de la culture. J'ai passé du temps aussi à développer et à implémenter ce qu'on appelle des systèmes d'information à travers la Chine et aussi plus largement à travers l'Asie. Et à l'issue de ces 7 années, j'ai eu toujours cette appétence pour la recherche, c'est-à-dire que pendant que j'avais ce travail de consultant ingénieur, j'avais toujours un œil assez aiguisé, averti sur ce qui se passait en termes de développement théorique, mathématique, mais pas seulement, sur les sciences informatiques. Et donc je suis rentré en France et c'est là que j'ai décidé d'intégrer l'ESSEC, mais pas sur le programme Grande École, sur le PhD, donc sur le programme doctoral. Donc j'ai intégré l'ESSEC en 2011, et là j'ai commencé un doctorat. Voilà. Je suis arrivé à l'ESSEC, j'ai fait ce doctorat, j'ai commencé à goûter ce que ça pouvait être l'enseignement. Aujourd'hui l'enseignement c'est beaucoup plus que ce que vous voyez en salle de cours, c'est aussi se nourrir d'énormément de projets de recherche qui nourrissent nos enseignements et toutes les discussions qu'on peut avoir avec vous, mais aussi avec les participants de formation continue. Et c'est comme ça que progressivement, on a tous mis les pieds et les mains, surtout dans l'intelligence artificielle, pour savoir comprendre comment ça marchait, de la partie logicielle jusqu'à la partie, je dirais, statistique, de modélisation. Et progressivement, ce qui m'a intéressé, c'est de me concentrer sur les enjeux de gouvernance, c'est-à-dire les humains, les hommes, les femmes avec l'intelligence artificielle. Comprendre ce que ça veut dire construire un cadre éthique, comprendre ce que ça veut dire mettre en place une gouvernance autour des systèmes d'information. Et donc c'est pour ça que je me suis destiné à une carrière d'enseignant-chercheur dans une business school. Voilà. Et donc aujourd'hui, concrètement, au quotidien, donc j'enseigne, et j'aurai l'occasion, je pense, de vous voir, en tout cas certains d'entre vous, j'enseigne le cours fondamental pour le programme Grande École sur Managing IT, donc je suis un des profs qui enseigne. J'enseigne aussi de nombreux autres cours en formation continue, là c'est pour un peu plus tard dans votre carrière. Et j'ai plein de projets de recherche avec le MetaLab, pas seulement, des projets de recherche aussi personnels qui nourrissent mes enseignements. Voilà. Voilà pour mon parcours.
Merci Julien. Super parcours. Effectivement, il a démarré comme ingénieur et je dois avouer que moi aussi, ça me fera la transition. Mais encore une fois, un autre message que je voudrais vous passer, c'est qu'à l'heure actuelle, la demande et la compréhension de ces technologies est devenue, la demande est devenue telle et la compréhension suffisamment simple pour que le diplôme d'ingénieur ne soit absolument pas un prérequis à une carrière dans l'intelligence artificielle. Julien développera tout à l'heure un certain nombre de voies qui sont offertes à l'ESSEC pour ceux d'entre vous qui voudraient faire de ces sujets, parce que ce n'est pas un sujet, c'est plein de sujets, la dominante de leur formation. Alors, moi, j'aime dire que je suis tombé dans l'IA quand j'étais petit, puisque je suis plus petit, j'approche de la fin de ma carrière, mais j'ai rencontré l'intelligence artificielle alors que j'étais à l'université en train d'étudier la physique quantique. Et avant tout ce que vous connaissez comme ordi, je ne vais même pas revenir sur l'aspect dinosaure du début de mon parcours, mais je suis tombé sur deux bouquins. Je suis tombé sur un bouquin de Marvin Minsky, qui est un linguiste américain. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut lever la main ? Qui a entendu parler de Marvin Minsky ? Yes, 2, 3, super. Les autres, je vous encourage à regarder qui est Marvin Minsky, puis si ça vous tente de lire un petit peu ce qu'il a écrit. C'est un des pères fondateurs de l'IA, pas au plan technique tellement, mais plus au plan de la logique. Et un autre bouquin fantastique qui s'appelle Gödel, Escher, Bach, qui est un bouquin surtout sur la récursivité, mais qui ouvre les pistes de l'IA moderne. Donc de fil en aiguille, j'ai décidé de changer de parcours. J'étais parti sur un parcours universitaire de physicien et j'ai basculé dans l'intelligence artificielle avec le premier diplôme en France d'école d'ingénieur qui a intelligence artificielle dans son titre. Et ça s'appelait Application industrielle de l'intelligence artificielle. Parce que, petit aparté, l'intelligence artificielle, comme je le dis depuis le début, c'est très large. Et puis, ça a été aussi des technologies qui ont évolué. Hein. Une fois que j'aurai fini de me présenter, je vous parlerai un petit peu de pourquoi on parle d'intelligence artificielle, en essayant de ne pas prendre trop de temps. Donc, à partir de ce départ qui m'a fait changer de parcours d'études, ce qui est une option toujours possible pour quiconque, et bien voilà, je me suis retrouvé embarqué d'abord dans la vision artificielle en travaillant, à l'époque on avait encore le service militaire et donc je travaillais sur des systèmes embarqués sur le Rafale, donc j'étais assez technique. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu me rapprocher du business. J'ai travaillé pour des grands groupes où on faisait de l'intelligence artificielle déjà à l'époque, c'était plus des systèmes experts, etc. Puis au bout de quelques années de ça, je vous passe les délais, j'ai essayé de fonder ma propre boîte. Et donc j'ai créé une des premières startups en France de deep tech, IA, qui s'appelait Realize 3D, et qui faisait de la vision artificielle sur les tout premiers caméras phone. Vous avez ça dans votre main maintenant tous, vous ne vous rendez même pas compte. Mais tout ça hérite de tout un tas de choses que des gens comme moi avec mes équipes avons développées il y a 30 ans de ça maintenant, 25-30 ans de ça si je calcule bien. Parcours d'entrepreneur, toujours proche de la donnée, proche de l'intelligence artificielle, de plus en plus proche des pouvoirs publics. J'ai à mon palmarès un certain nombre d'actions avec les secrétariats d'État au numérique successifs pour les amener à comprendre l'importance de ces technologies-là, dans lesquelles je crois fondamentalement qu'elles sont bénéfiques pour la société à long terme. Et donc, m'intéressant aux politiques publiques, etc., je me suis intéressé à l'écosystème et donc j'ai fini par fonder à mon retour des États-Unis. C'est une petite parenthèse, c'est que m'intéresser à l'IA, ça m'a amené à créer plusieurs startups, j'en ai fait 3, et ça m'a amené jusqu'aux États-Unis où j'ai en tout passé 17 ans. Et donc, de retour des États-Unis, j'ai créé, parce que je pensais que l'écosystème français avait besoin d'initiatives de ce genre, une association qui s'appelle le Hub France IA, qui est très active, que vous pouvez aller voir sur leur site web. C'est une association privée qui met ensemble des grands groupes, des labos d'IA et des startups pour faire émerger des projets autour de l'IA. Et puis, je me suis lancé dans le conseil. Donc, je conseille des grands groupes du CAC 40, etc. J'ai monté un labo d'IA pour un des grands groupes en 2018, etc. Et un jour, j'ai reçu un appel de Julien et de Guillaume, notre acolyte, le second co-directeur académique du MetaLab. Et on a eu une très bonne conversation. J'ai beaucoup aimé la vision de l'ESSEC qui nous réunit ce soir, qui est de dire l'IA ne doit pas rester la chasse gardée des profils techniques. Je peux critiquer les ingénieurs parce que je suis un ingénieur. Et l'ingénieur qui comprend bien l'IA, il a rarement le temps aussi de se former à ce à quoi vous, vous allez être formé dans le cadre de votre formation ici. Donc ne laissons pas l'IA aux mains des ingénieurs et aidons le reste de la population, les gens non techniques, qui peuvent être matheux, hein. Les maths, ce n'est pas technique, c'est scientifique. Les gens moins techniques, comprendre l'IA, d'où ma décision de rejoindre le MetaLab. Voilà. Si vous avez, on n'a pas parlé des questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en live, ou alors, à la fin, on a prévu du temps pour une session de Q&A. Voilà pour mon parcours, pour vous illustrer qu'on peut venir à l'IA finalement de pas mal de moyens différents, que c'est un domaine super vaste et très intéressant. Donc dans cette prochaine quelques minutes de notre intervention, je vais d'abord conserver le micro pour vous démythifier un petit peu l'intelligence artificielle. Je crois que c'est super important qu'on... Ça fait 10 minutes qu'on parle d'intelligence artificielle, 15 minutes déjà, le temps passe vite. Mais qu'est-ce que c'est pas l'intelligence artificielle ? On lit tellement de choses dans la presse, dans les médias. Levez la main si vous pensez bien savoir... Il n'y a pas de piège, mais levez la main si vous pensez bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vois une petite dizaine de mains qui se lèvent. Est-ce que ça veut dire que les autres, vous n'avez aucune idée de ce que c'est ? J'espère que vous avez au moins capté des choses dans les médias. L'intelligence artificielle, ce n'est pas des robots qui vont diriger les humains. Ce n'est pas des machines qui vont devenir plus intelligentes que nous et dont nous allons devenir les esclaves. Ça, la presse adore reporter ces théories à notre sens fumeuses, qui émanent de gens très visibles, mais finalement pas très informés, sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de données, de techniques, de traitement automatique des données, capable d'apprendre, de prendre des décisions juste sur la base d'opérations mathématiques. D'accord ? L'intelligence artificielle n'a pas de conscience propre. Même ChatGPT, qui semble bien maîtriser le langage, ne sait pas de quoi il parle. On va y revenir. Donc, ce n'est pas un monstre en cours de création. Le problème, c'est que le nom « intelligence artificielle » a été utilisé pour la première fois en 1956 par des chercheurs, un gars qui s'appelait John McCarthy et qui a appelé Marvin Minsky, que je mentionnais, et puis quelques autres, et qui se sont dit, dis donc, si on se réunissait pendant une semaine pour réfléchir à quels sont... C'était au début des ordinateurs, hein, et donc ils voulaient réfléchir à quels sont les processus cognitifs humains qu'ils pourraient transposer sur une machine de manière à ce que cette machine puisse effectuer les mêmes opérations. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête ? Ils avaient en tête le calcul. Hein, on se souvient d'Alan Turing et des machines à calcul. Bon, est-ce qu'il y a d'autres manières d'avancer sur le calcul ? Et puis, il y a quelqu'un dans ce workshop qui a dit « Ah, mais ce serait super si en plus on pouvait faire qu'une machine apprenne comme un humain sait apprendre. » D'accord ? Et donc, le terme « intelligence artificielle » vient de là. Il n'a jamais été question de faire des machines plus intelligentes que les hommes. Je vais vous donner l'argument ultime, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence humaine. On ne sait pas ce que c'est. On sait la caractériser et la mesurer dans des micro-secteurs très étroits, mais ce qui fait votre intelligence à vous, ou à vous, ou à vous, ou à vous, c'est beaucoup plus que ce qu'une machine ne pourra jamais faire, parce que vous intégrez à la fois énormément d'input, de l'ordre, bien sûr, des faits et de la connaissance, mais aussi des émotions, de la perception, de la chaleur qui fait dans la pièce, qui va influencer le niveau d'intelligence auquel vous performez, etc., etc. Il y a beaucoup plus dans l'intelligence humaine que ce qu'aucune machine n'arrivera jamais, je le dis, je le pose là, à reproduire. D'accord ? Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est pas ça, c'est aujourd'hui, dans la définition moderne, ce qui nous emmène tous, les chats GPT et le machine learning, etc., c'est l'apprentissage automatique par un système mathématique, apprentissage basé sur la consommation d'un grand volume de données. D'accord ?
Merci, Bertrand. Alors, maintenant, on vous a présenté ce que n'est pas l'IA, on ne vous a pas présenté ce que c'était encore. Non, simplement pour vous dire que quand on a pris cette position à l'ESSEC de se dire on va former tous les participants, tous les étudiants de tous les programmes sur ces enjeux de l'intelligence artificielle, on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à ce qu'il fallait construire en termes de curriculum, ce qu'il fallait mettre en place pour que vous soyez en capacité de comprendre, d'interagir avec des gens qui vont eux être les designers, les développeurs de ces systèmes. Donc là, on parle vraiment d'hybridation de compétences, où pendant très nombreuses années, dans des écoles comme l'ESSEC et beaucoup d'autres, on a abordé la technologie comme une boîte noire. Ici, on s'est dit, non, arrêtons d'avoir ce prisme de la boîte noire quand on parle de technologie. On veut véritablement que vous compreniez de quoi il en sort. Donc véritablement, aujourd'hui, notre intention, à travers les différents cours que vous allez avoir, à travers les différents projets sur lesquels vous allez être impliqués, c'est de comprendre déjà de quoi il en sort, c'est-à-dire véritablement d'essayer de comprendre les mécanismes, même si on ne vous demande pas de les développer vous-même, mais véritablement de comprendre ce que c'est un apprentissage, comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, c'est de réfléchir à tous les enjeux organisationnels, sociétaux, qui découlent de l'introduction de ces technologies. Et il y a énormément de questions à se poser, et ce, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des processus organisationnels, que ce soit au niveau des politiques publiques à mettre en place, que ce soit au niveau des enjeux de sécurité et de transfert de données. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, et ça, c'est des choses qui ne doivent pas forcément, et comme on l'a dit tout à l'heure avec Benoît, ce ne sont pas des choses qui doivent forcément être dans les mains des ingénieurs. On doit avoir des gens qui sont en capacité de comprendre les différents modèle de gouvernance pour pouvoir réfléchir à des cadres éthiques, à des cadres organisationnels qui vont permettre l'adoption, la meilleure adoption possible. Et quand je dis la meilleure adoption, ce n'est pas simplement en termes de taux d'adoption, c'est en termes de compréhension et aussi les meilleurs usages possibles. Okay ? Donc, avec cette position qui est la nôtre, on a développé, on est encore en train de développer un certain nombre de programmes. Je vais en citer quelques-uns pour que vous ayez le panorama au niveau de l'échelle et après vous verrez ceux qui vous concernent plus directement. Aujourd'hui, il y a un master qui s'appelle Master in Data Science and Business Analytics qui est offert conjointement entre ESSEC et École Centrale Supélec, qui est là maintenant depuis nombreuses années et qui est considéré comme un des meilleurs masters dans le monde sur ce sujet-là, qui forme ces profils qu'on appelle des profils hybrides, c'est-à-dire que vous recevez un curriculum de l'ESSEC, un curriculum de Centrale Supélec, et à l'issue de cette formation, vous êtes en capacité d'opérer des fonctions techniques, mais aussi des fonctions d'encadrement, d'organisation, de gouvernance et de gestion. Donc ça, c'est le Master en Data Science et Business Analytics. Cette année, au moment où je vous parle, on est en train aussi de lancer un bachelor, aussi avec l'École Centrale, donc c'est le bachelor Adams. Donc vous voyez, donc on a le bachelor, on a le master. Et il y a un an et demi de cela, on a lancé aussi ce qu'on appelle un PhD en data analytics, c'est donc le doctorat. Donc vous voyez, du bachelor au master et au PhD, on couvre maintenant dans le groupe ESSEC l'ensemble du spectre possible en termes de diplômes proposés. Donc ça, c'est pour la formation initiale. Pour la formation continue, on forme aussi un certain nombre de cadres qui sont en entreprise, qui sont en fonction sur ces sujets-là. On a des formations courtes, des formations longues. Ça, c'est pour, je dirais, la big picture. Maintenant, pour ce qui vous concerne plus directement, vous allez devoir suivre ce qu'on appelle un cours en ligne, un SPOC, sur l'intelligence artificielle, qui va vous, encore une fois, continuer ce qu'a commencé à faire Benoît, c'est-à-dire démythifier, expliquer, vous faire aussi manipuler ces systèmes, encore une fois, dans le but de comprendre pour qu'après, vous puissiez prendre position. Donc il y aura un SPOC qui est obligatoire cet axe-là. Et ensuite, au-delà de ce SPOC, vous aurez la possibilité d'avoir différents électifs qui sont soit autour de la gouvernance, soit sur des sujets plus techniques. Donc, à cela, on est en train d'accoler ce qu'on appelle aujourd'hui un track. Donc vous aurez un track dédié sur l'intelligence artificielle pour ceux qui sont véritablement intéressés. Et en plus, bien sûr, et ça va suivre votre cursus ici, c'est vous allez avoir plein d'opportunités de projets, que ça soit dans des cours de marketing, dans des cours de finance, dans des cours de ressources humaines, de réfléchir aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, c'est en comprenant de quoi on parle qu'on va pouvoir, je pense, développer ce cadre d'adoption qui nous semble nécessaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Benoît, moi ou Guillaume, pour toutes ces questions liées au cours offert et au programme proposé, mais c'est des choses sur lesquelles on peut vous répondre à tout moment.
Merci Julien. Alors je vais faire une petite aparté. Je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est la fin de la journée, c'est dur pour tout le monde, mais vous rendriez un super service à votre voisine ou à votre voisin qui somnole si vous pouviez juste la poquer un petit peu ou le poquer un petit peu. On aimerait que vous soyez avec nous juste encore quelques minutes parce que bah, nous aussi on est là, nous aussi on a chaud et c'est super d'avoir l'impression qu'on nous écoute un minimum, surtout que ce qu'on vous dit est vachement important. Alors, encore une question. Mon affirmation, c'est que vous utilisez déjà tous l'intelligence artificielle en le sachant ou sans le savoir. Est-ce que certains d'entre vous veulent lever la main pour proposer des choses, des actions que vous faites dans lesquelles vous savez que l'intelligence artificielle est mise en œuvre ? Qui veut se lancer ? Oui, là-haut, parle bien fort.
Les échecs.
Les échecs, oui, absolument. Ça a été fortement discuté il y a une dizaine d'années. Et les systèmes qui savent jouer aux échecs sont des systèmes d'IA étroites, assez performants. Étroites parce qu'on a compris finalement que ce qu'on arrivait à faire aux échecs était finalement assez peu généralisable à d'autres problèmes. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle l'IA étroite. Très bon exemple. Qui d'autre ? Les correcteurs automatiques qui s'améliorent de plus en plus. Au début, ce n'était pas vraiment de l'IA. Maintenant, c'est de l'IA, absolument. Alors ça, c'est un petit peu large. Tu peux préciser ? D'accord. Donc sur l'ordinateur qui devient un joueur et qui interagit avec les autres joueurs et l'environnement sont souvent basés sur de l'IA. C'est plus du système expert que du machine learning. Le machine learning, il est très utilisé dans le gaming sur la création des univers, des textures, sur le mouvement pour réagir. Hein, au début, on avait des personnages qui étaient comme ça et maintenant, on a suffisamment entraîné les systèmes pour que la fluidité du mouvement corresponde mieux aux situations. D'autres exemples ? Avec ? Alors, les réseaux sociaux avec le filtrage, ouais, absolument. Il y a un autre exemple célèbre dans les réseaux sociaux. Facebook a arrêté ça pour des considérations dont on pourra parler après, mais pendant tout un moment, pendant plusieurs années, quand vous uploadiez une photo sur Facebook, Facebook vous suggérait le nom de la personne que vous veniez d'uploader et vous disiez oui ou non. Et ça, c'est complètement de l'IA, c'était de la reconnaissance faciale basée sur le machine learning. D'autres exemples ? Oui, devant. Siri et les assistants vocaux, absolument, on est en plein dedans. Parce que pour reconnaître toutes vos voix individuellement, on ne peut pas les programmer une par une. Donc ça passe effectivement par des systèmes d'apprentissage automatique où on a appris au système avec plein de locuteurs de manière à ce que votre voix corresponde à une des voix moyennes qu'il est capable de comprendre. Absolument. Bon, ensuite, il y a d'autres niveaux, il y a plusieurs niveaux d'IA dans la reconnaissance de la parole. Oui, au fond ? Oui, la reconnaissance des pathologies dans la santé, ou alors L'assistance au diagnostic médical, ça se voit de plus en plus. Si vous avez des pathologies graves, les radiologistes dans les hôpitaux universitaires commencent à se faire aider par des programmes d'IA. On parle de médecine augmentée, hein. Il ne s'agit pas de laisser l'IA faire le diagnostic, mais ça permet de gagner énormément. Je crois que les chiffres sont très clairs. Sur une pathologie particulière, les médecins spécialistes avaient un taux de performance de 90%, 9 sur 10, ce qui était pas mal. Mais quand c'est très grave, on préférait que ce soit 100%. L'IA toute seule avait une performance de 60%. Donc au début, ils se sont dit, mais l'IA ne sert à rien. Et puis on s'est rendu compte que quand on mettait de l'IA et le médecin ensemble, on arrivait à 99,8% de bon diagnostic et de bonne reconnaissance. Donc on est dans un truc qui est vachement important, qu'il faut que vous reteniez bien avec l'IA, c'est que l'IA, ce n'est pas une substitution de l'humain, dans la plupart des cas, sauf sur les tâches très simples, c'est une augmentation de l'humain. C'est un outil à votre service, un outil particulièrement puissant à votre service. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est partout déjà. Ça veut dire que toutes les entreprises y viennent aussi, surtout après l'explosion de ChatGPT, où maintenant les collaborateurs ne demandent plus leur avis à l'entreprise, les étudiants ne demandent plus leur avis aux profs, tout le monde commence à utiliser l'IA parce qu'on comprend que dans certaines applications, c'est vraiment vachement bien l'IA. Et donc, ça me fait dire que vous ne pourriez pas y échapper. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA ? Derrière l'IA, il y a un autre concept super important, et je suis certain que certains d'entre vous savent exactement de quoi on parle, mais c'est les données. Et les données, c'est de l'information capturée sous forme numérique. Et cette information-là, on avait tendance à la considérer comme un accessoire des systèmes informatiques. D'accord ? Donc la donnée, elle allait dans la base de données, et puis on avait la donnée dont on avait besoin, etc. Ou alors on était Google, ou on était Facebook, et on avait compris tôt qu'en fait, la valeur, elle était dans la donnée, et donc on a construit des licornes sur la base de l'exploitation de la donnée que vous fournissez en permanence à ces services-là. Eh bien, ce qui est en train de se passer là, c'est que l'ensemble des secteurs de l'économie sont en train de comprendre la valeur de la donnée. Et je vous livre juste un petit truc auquel vous pouvez réfléchir, on ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui, mais pour ceux d'entre vous qui ont étudié un petit peu l'organisation de l'entreprise, vous savez qu'au début, les entreprises étaient structurées autour du capital financier, c'est-à-dire que l'objet le plus important de l'entreprise, c'était le capital financier qu'il fallait faire fructifier, et donc on a aligné des investissements, on a acheté des usines, on a embauché des gens qui étaient finalement des pions hein, au service de la valorisation du capital financier. Puis dans les années 50, ça c'était au 19e siècle, dans les années 50, on s'est intéressé au capital humain. On s'est dit, mais attends, les hommes, c'est pas que des pions comme une machine dans une organisation. C'est une autre forme de ressource qui est aussi importante que le capital financier, parce que le capital financier sans humain, eh bien, il ne va pas très loin. Et donc, toute notre organisation aujourd'hui, si vous regardez l'organisation, elle est vraiment faite autour de ces deux formes de capital, le capital financier et le capital humain. Eh bien, je ne vous donne pas 10 ans, probablement 5 ans, avant de voir un grand nombre d'entreprises se réorganiser autour d'une troisième forme de capital, par intégration, hein, pas par substitution, le financier, l'humain et la donnée. D'accord ? Une bonne manière de voir les choses, Julien parlait de gouvernance, c'est aujourd'hui il y a une gouvernance du capital financier, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec l'argent d'une boîte, vous avez un directeur financier, vous avez des processus, des protocoles, vous avez des montants de signatures autorisées, etc. pour protéger ce capital financier. Pareil côté humain. C'est venu beaucoup de la réglementation, mais c'est venu aussi des entreprises. Et maintenant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les gens. D'accord ? Il y a une gouvernance des humains dans les entreprises. Eh bien, vous allez voir apparaître une gouvernance de la donnée qui est très différente des deux premières, mais qui va être aussi importante pour l'entreprise.
Merci, Benoît. Je vois que le temps passe et que les yeux se ferment. Donc, on va essayer d'être actif sur rapide, je dirais, sur les sujets à venir. Un thème fondamental quand on parle de l'introduction de l'IA dans nos sociétés, c'est justement le travail. Et il y a encore parmi les mythes qui sont largement discutés, diffusés et très souvent à tort, il y a ce mythe de la perte de l'emploi, c'est-à-dire que la machine va remplacer l'humain. Avec l'OCDE, pendant 2 ans, j'ai mené une étude en France. C'est une étude qui a été globale, donc elle a été menée aussi dans 7 autres pays occidentaux, plus le Japon. Et cette étude, elle a tenté de comprendre ce qui est en train de se passer réellement dans les entreprises, de manière effective et concrète. Les résultats sont assez alignés d'un pays à un autre. Donc, ce que je vais vous livrer pour la France est valable de manière assez large, je dirais. C'est que pour l'instant, on n'a pas de disparition, on n'a pas de perte d'emploi liée à l'introduction de l'intelligence artificielle. Les chiffres sont très clairs là-dessus. On a des réallocations, on a des réaffectations, on a la transformation de certains métiers, mais on n'a pas de perte d'emploi. C'est des choses qui peuvent changer vite. On va parler tout à l'heure de l'IA générative. C'est une forme d'intelligence artificielle qui est en train de perturber, peut-être de manière plus importante que les précédentes vagues, nos sociétés, nos organisations. Toujours est-il que cette étude révèle cet aspect-là. Pas de perte d'emploi. Une réaffectation, un remapping des différentes fonctions. Il faut aussi comprendre que les organisations, elles doivent s'adapter. Elles doivent s'adapter à ce nouvel équilibre entre, d'un côté, des systèmes à base d'intelligence artificielle qui, même s'ils n'auront jamais l'intelligence humaine, sont quand même de plus en plus sophistiqués et donc capables d'opérer un certain nombre de fonctions dans l'organisation et surtout capables, je dirais, de réaliser les tâches les plus routinières, voire parfois des tâches complexes aussi. Ce qui veut dire concrètement que vous, au quotidien, ou un employé au quotidien, quelle que soit sa fonction, il va être largement bouleversé par l'introduction de ces technologies-là. Ça veut dire, de manière très concrète, qu'on peut imaginer, dans certaines fonctions en tout cas, qu'on aura plus de temps. Plus de temps pour la créativité, plus de temps aussi pour la pensée, c'est-à-dire réfléchir, la réflexion, la mise en place de modèles qui ne peuvent pas être perçus par les machines. Comme le disait Benoît, la machine, elle a une compréhension extrêmement étroite des phénomènes qu'elle observe et on ne peut pas lui demander de comprendre le sens commun, on ne peut pas lui demander de régler tout un tas de problèmes qui sont largement connectés à tout un tas d'enjeux, voire de disciplines, etc. Donc ça veut dire que la place de l'humain dans les organisations est très importante, on a parlé tout à l'heure pour la gouvernance de ces technologies-là, mais aussi parce que les technologies, et on l'a dit depuis le départ, ne sont pas là ou ne remplaceront pas les humains dans bon nombre de tâches et de fonctions. Mais par contre, il s'agit de les repenser. Et quand on dit les repenser, ça veut dire aussi comprendre quelles vont être les compétences qui vont être les plus recherchées ou les plus attendues pour l'humain versus les machines, même si je n'aime pas faire cette dualité. Donc comprenez bien ici qu'on est en train, je veux dire, quand on sait la conversation publique, les organisations telles que l'OCDE, le gouvernement ou autres sont en train de réfléchir à quelles sont ces nouvelles compétences qui sont attendues pour les humains. Et ce qui est très clair aussi, c'est que c'est justement toutes ces dimensions interpersonnelles, l'empathie, les dimensions communicationnelles, justement comprendre les signaux faibles dans une conversation, tout ça va être des aspects qui sont extrêmement valorisés pour nous, humains, parce que justement les machines ont énormément de difficultés à aller pouvoir comprendre toutes ces connexions, je dirais, neuronales qui sortent du périmètre défini pour l'intelligence artificielle en question. Donc, comprenez bien ici que ces études-là, aujourd'hui, pour l'instant, sont sans appel, les résultats sont sans appel. Aujourd'hui, on ne parle pas de perte d'emploi, on parle d'une réaffectation des compétences. Donc les enjeux de formation, et c'est pour ça qu'on prend cette heure avec vous, sont extrêmement importants pour que justement on puisse avoir des dirigeants, des entrepreneurs qui soient en capacité de comprendre et qui ne soient pas justement passifs par rapport à ces technologies-là. Ces enjeux de formation, les enjeux de ce qu'on appelle en anglais upskilling, reskilling, sont des enjeux prépondérants pour les grands groupes. Donc ça, c'est des aspects vraiment qu'on voulait poser ici, parce que, encore une fois, ça fait partie de ce combat qui est de dire on va démythifier ce que c'est l'intelligence artificielle de ce que ce n'est pas, parce qu'il s'agit de comprendre ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Et cette étude-là révèle que pour l'instant, on n'a pas de disparition de métier, même si ça peut évoluer, mais on a une réaffectation des compétences entre ce que peut faire l'homme et versus ce que peut faire la machine.
C'est un sujet essentiel, que vous n'ayez pas l'impression qu'on est en train de prêcher sur une forme de substitution de l'humain par la machine. Ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Merci Julien pour ce commentaire. Inutile de rajouter que vous avez l'opportunité à l'ESSEC de sortir formé à l'IA. Et donc, pour vous, pas besoin après de reskilling, au-delà de l'apprentissage continu qui est la norme pour nous tous maintenant. Mais vous sortirez de l'ESSEC équipé pour ce nouveau monde de la data et de l'IA. Alors, moi, j'adore voir les mains se lever. Et donc, pour la dernière fois ce soir, enfin non, l'avant-dernière fois, parce qu'après, ce sera les questions-réponses, je voudrais savoir qui a déjà utilisé ChatGPT. Yes! Ah. Voilà. Vous l'attendiez tous. Je l'ai posé. C'est génial. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est bien, ce que ça sait faire. Ça, c'est magnifique. Je voudrais juste vous alerter, attention, l'ESSEC encourage l'utilisation de ChatGPT, mais en échange avec une forte dose de responsabilité. Et ce sera à discuter avec chacun de vos profs. Ne croyez pas que vous pourrez demander à ChatGPT de rédiger vos trucs et que ça ne se verra pas. Plus on utilise ChatGPT, plus on est bon, parce que l'humain est supérieur à la machine. On a vu que les programmes récemment, que les programmes de détection automatique de textes produits par l'IA générative ne marchaient pas. Par contre, je vous mets au défi de tromper Julien ou moi, qui sommes des utilisateurs avides de ces systèmes-là, de nous tromper. C'est-à-dire que si vous remettez à Julien un devoir fait avec ChatGPT, il va tout de suite le voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fait avec ChatGPT ? Ça veut dire un devoir dans lequel vous aurez utilisé ChatGPT pour construire les réponses, le plan, etc., sans input de votre part. Si vous utilisez ChatGPT en complément de ce qu'on appelle en anglais la human agency, autrement dit de votre jugement, à ce moment-là, on est dans une histoire différente. Et ça, c'est un usage probablement acceptable. C'est-à-dire, utiliser ChatGPT ou d'autres, hein, moi j'aime beaucoup Claude.ai, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, ça permet de synthétiser des gros documents, etc. Mais n'oubliez pas que c'est vous le pilote. C'est vous le pilote de votre propre formation, c'est vous le pilote du contenu que vous allez produire. D'accord ? Ne vous reposez pas sur la machine. La machine, elle est très imparfaite et elle est piégeante. Combien parmi vous ont déjà constaté des hallucinations de ChatGPT ? Voilà. Bon, à peu près un tiers de ceux qui ont utilisé. Donc les deux tiers qui n'ont pas rencontré des hallucinations, essayez de pousser un peu le système et rendez-vous compte de à quel point ces hallucinations sont crédibles quand on les voit. Et qu'il faut vraiment se poser la question, quand on lit du contenu produit par ChatGPT, est-ce que ce qu'il me raconte est vrai ou pas ? Et ça, c'est la clé pour vous pour l'utiliser. Donc c'est des systèmes géniaux pour gagner du temps, mais il faut absolument rester en contrôle. Bon, en plus, il y a d'autres questions avec ces systèmes. Hein. On voit les biais, on sait que l'output de ChatGPT, par exemple, est formaté sur l'output standard des universités américaines, c'est-à-dire que les réponses sont toujours structurées exactement de la même manière, etc. Donc ça, c'est une forme de biais, parce que pourquoi, par défaut, ça ne sortirait pas sous forme de haïku, par exemple, ça pourrait être aussi intellectuellement intéressant quand vous lui posez une question, etc. etc. Donc attention au biais et tout à fait ouvert à une discussion sur la responsabilité que vous avez et sur les biais. Mais discussion à avoir d'abord avec votre prof pour chaque cours, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de... Il y a beaucoup de gens à l'ESSEC qui réfléchissent au sujet de l'IA générative. On a un gros groupe de travail au niveau pédagogique, on a des groupes de travail au niveau recherche. Mais c'est un outil qui est tellement versatile, qui peut être utilisé de tellement différentes manières, que c'est vraiment avec chaque prof qu'il faut le voir. Parce que l'IA générative ne pourra jamais vous permettre d'apprendre, par exemple, ce que c'est qu'une bonne négociation entre humains, ou apprendre l'intégration dans le développement d'une stratégie de facteurs intuités et non pas connus avec certitude, etc. etc. Donc ne vous reposez-vous dessus, mais pas trop. Il y a deux organisations références à l'école sur ces sujets-là. Il y a le MetaLab, mais il y a aussi, je dois les mentionner, la direction innovation, technologie et data, la DIET, qui est un peu une DSI plus à l'ESSEC, donc qui vous fournit vos environnements de travail, etc. Et on a mis en place des plateformes. Il y a une plateforme où vous pouvez utiliser l'IA générative si vous ne voulez pas utiliser ChatGPT. côté diète. Et nous, on en a fait une pour la recherche. Pourquoi il y en a deux? C'est parce qu'on a commencé d'abord et que tout ça va se rejoindre. Voilà, je crois que vu le temps qui passe vite, je vais en rester là sur l'IA générative et ouvrir aux questions. On a le temps que vous voulez pour discuter avec vous, répondre à vos questions ou vous amener des infos complémentaires parce qu'évidemment, on n'a pas tout balayé. Ça aurait été un petit peu trop. Qui veut se lancer avec la première question ? Oui, là-bas.
Bonjour. Tout d'abord, merci pour la conférence. Du coup, vous nous avez expliqué qu'il n'y aurait pas de perte de métier, mais plutôt un transfert. Et moi, je voudrais savoir, du coup, est-ce que ce transfert serait pas, enfin, va pas devenir négatif d'un point de vue social, puisque ça va sûrement se transférer de, enfin, les métiers qui nécessitaient auparavant peu de compétences vont sûrement nécessiter beaucoup plus de compétences. Donc, est-ce que vous pensez que d'un point de vue social, c'est une bonne idée, l'avènement des IA ?
Je commence. C'est une très bonne question et merci. Et je n'ai pas voulu rentrer dans la profondeur de l'étude et je vous la mettrai à disposition si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux d'accompagnement. Accompagnement vers ces nouveaux métiers, vers ces nouvelles fonctions et vers la transformation de métiers déjà existants. Si on prend par exemple le métier d'opérateur sur une ligne de production, que ce soit pour la production d'automobiles ou autre, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et c'est déjà le cas, hein, parce que l'IA est déjà dans ces usines, il y a déjà des transformations majeures par rapport à ce qu'il est nécessaire de savoir faire pour pouvoir garder son poste. Donc ça, c'est un enjeu d'accompagnement et au niveau d'un pays comme la France ou d'une région comme l'Union européenne, il y a énormément de discussions, de projets d'accompagnement pour que les entreprises puissent accompagner leurs employés, leurs collaborateurs à la manière dont leur propre métier évolue, mais aussi pour leur offrir la possibilité de pouvoir évoluer dans ce monde ultra technologisé. Donc il y a vraiment ces enjeux-là, vous avez raison, et pour chaque métier, pour chaque industrie, on va tenter, on est en train de mettre en place, pas forcément l'ESSEC, mais à l'échelle du pays, un certain nombre d'accompagnements qui sont nécessaires. On travaille avec le monde bancaire, il se pose beaucoup de questions par rapport à la réorganisation des métiers, et ça veut dire concrètement qu'il faut aller dans le détail de ce que veut dire chaque métier et comment est-ce qu'on va redéfinir les compétences nécessaires. Et en fonction des compétences nécessaires, donc les compétences visées, on va se dire, OK, comment est-ce qu'on forme maintenant cette force de travail vers ces compétences visées. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de perte de travail parce qu'à l'échelle d'une génération on peut avoir une période difficile, mais c'est des choses qui s'accompagnent et pour lesquelles l'enseignement supérieur tente au mieux de comprendre quels sont ces nouveaux enjeux, ces nouvelles compétences pour pouvoir accompagner les métiers. Mais si on va dans la granularité la plus fine, oui, vous avez raison, il y a des vrais enjeux de perte d'emploi et comment est-ce qu'on les minimise, comment est-ce qu'on les accompagne le plus possible.
Oui, je voudrais compléter avec un exemple concret. En 2018, j'ai créé le premier labo d'IA au sein du groupe Vinci. Un des premiers projets qu'on a passé en production, donc qui sont devenus opérationnels, c'est un projet qui améliore ce qu'on appelle la classification automatique des véhicules au péage. Quand vous passez au péage, vous appuyez sur le bouton, vous recevez un ticket. Vous avez peut-être remarqué que ce ticket est la plupart du temps le ticket qui correspond au type de véhicule. C'est-à-dire si vous passez en moto, vous avez un ticket pour moto. Si vous passez en voiture, un ticket pour voiture, en camion, etc. etc. Le problème de ce système-là, c'est que c'est des vieux systèmes avec des portiques de mesure, c'est qu'il n'était pas suffisamment fiable. Et donc Vinci consacrait une partie non négligeable de ses effectifs, du temps de ses effectifs, sous forme d'astreinte, à vérifier, à traiter les réclamations. C'est-à-dire que si je suis une voiture et que je reçois un ticket camion, je ne vais pas être content de payer 2 euros de trop ou 3 euros de trop. Donc, je vais faire une réclamation. Soit j'appuie directement sur l'interphone, soit j'envoie ça après. Et donc, ça occupait un nombre d'heures, vu le trafic qu'il y a sur les autoroutes, un nombre d'heures important. On a fait un système qui a réduit de 95% le nombre des appels parce que la précision, du coup, est bien meilleure. Et les gens, si on a réduit de 100 à 5%, eh ben, il y a 95% de ces heures d'astreinte qui ne sont plus nécessaires. Est-ce que les gens ont été virés? Absolument pas. Les gens, du coup, sont retournés à leur tâche à plus forte valeur ajoutée. D'accord ? Ça, c'est une des vertus de l'IA. C'est débarrasser, en les faisant mieux, des tâches pas forcément très valorisantes, de manière à, comme Julien le disait, ce que les gens puissent consacrer leur qualité spécifiquement humaine de créativité, d'intelligence, de discussion, etc. On voit dans les études aujourd'hui qu'il y a quelques métiers qui vont être fortement disruptés. Et quand on regarde ce que c'est toujours les métiers de traitement de la donnée très automatique de bas niveau. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des gens qui font ça le font par obligation, parce qu'on ne leur fait pas le choix. Si on leur donnait l'opportunité de faire des choses plus évoluées, plus intéressantes, ils seraient ravis de les faire. Donc la responsabilité, elle est, et c'est ce qu'on dit nous quand on rencontre des dirigeants d'entreprise, elle est sur le dirigeant d'entreprise. On dit, vous allez avoir une capacité humaine dégagée, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens? Comment est-ce que vous allez augmenter votre business en général par l'utilisation meilleure de votre ressource humaine.
More questions.
D'autres questions? Oui, au centre. Merci, c'est une super question. D'abord, un rappel du timing. Moi, je suis un ingénieur. L'ordinateur quantique, je m'y suis intéressé de près, je suis ça de près. C'est rien de réaliste avant 30 ans. Parce que le coût de développement des matériaux, des technologies, des environnements, on va rester au prototype pendant des années et des années. On le sait maintenant. Les gens du quantique le savent. Et c'est pour ça que les financements vers le quantique sont en train de se tarir. Le quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité de calcul beaucoup plus performante. Là où j'aime la direction où ça va, c'est que potentiellement... Le quantique est beaucoup moins consommateur d'énergie proportionnellement au mégaflop, à l'unité de traitement, que les CPU traditionnels. Et qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, personne n'en a encore parlé, mais je vais amener le sujet, a un vrai problème d'impact environnemental. D'accord ? Il faut, à chaque fois, vous êtes 420 dans le programme, si vous faites chacun une requête à ChatGPT, ensemble, vous avez consommé 4 litres d'eau au minimum dans les centres de calcul pour refroidir les ordinateurs qui vont vous répondre. C'est gigantesque. Donc l'impact sur la consommation d'eau est un grave problème, et ça vient directement des architectures hardware qui ont besoin d'être refroidies. L'impact sur l'émission de carbone, évidemment, pas seulement dans la fabrication de ces ordinateurs, mais dans l'électricité qu'ils consomment, est considérable. Et donc, pour moi... Pour ceux qui s'intéressent à la technique profonde, un des chemins de travail les plus signifiants dans l'intelligence artificielle, c'est celui du travail qui vise à réduire l'empreinte environnementale de ces systèmes. Et le quantique est une voie, malheureusement, à très longue échelle.
Une question là. Où en est la France et l'Europe en intelligence artificielle?
Tu commences. Ouais. Il me fait commencer parce qu'il sait que j'ai une réponse qui va vous plaire. J'allais dire on s'en fout. Okay. Il y a un grand débat sur la géostratégie de l'intelligence artificielle et sur les prises de position dominantes. C'est un bon débat, c'est un vrai débat. Parce que si on accepte que ces technologies vont être à l'économie de demain ce que l'électricité est à l'économie d'aujourd'hui, on comprend qu'il ne faut pas laisser, je veux dire, on ne laisserait pas notre capacité de production d'énergie entièrement entre les mains d'acteurs étrangers. On a vu ce qui s'est passé autour du gaz avec la Russie au moment du début de la crise ukrainienne. Où la Russie a tenté de faire du chantage avec l'Europe en menaçant et en coupant, d'ailleurs, fortement probable que ce soit eux qui aient fait exploser ce gazoduc. Il ne faudrait pas que la même chose se produise. Il y a un papier qui est sorti, qui était fondamental chez Meta il y a 2 ans, et 12 des 13 auteurs sont français. D'accord. Alors, le fait qu'ils travaillent pour Meta au lieu de travailler pour le gouvernement ou pour l'ESSEC ou pour je ne sais pas qui, oui, c'est embêtant. Mais ça dit que la question n'est pas très importante parce que j'étais en Chine récemment. J'étais en Chine au mois de juin pendant 3 jours à l'université de Tsinghua pour parler d'intelligence artificielle. Et contrairement à tout ce qu'on lit en Europe, ils étaient là en train de m'expliquer, professeurs, entrepreneurs, qu'ils étaient considérablement en retard sur l'IA générative et qu'ils pourraient vraisemblablement jamais rattraper leur retard. Donc, ils utilisent les systèmes américains comme tout le monde. Alors, pour finir la réponse, il y a des initiatives françaises comme Mistral, qui a un peu fait la presse parce qu'ils ont levé 400 millions d'euros à une valo de 2 milliards en série A, un truc incroyable. Il y a un truc collaboratif open source qui s'appelle Bloom, qui est prometteur, qui est un des systèmes les plus équilibrés, des LLM les plus équilibrés. Donc il y a des choses, on n'a pas à rougir, mais l'important c'est d'apprendre à l'utiliser à bon escient au profit de notre santé économique, on va le dire comme ça. Je ne parle même pas de croissance ou quoi. Le risque aujourd'hui pour les pays dont les cadres ne vont pas s'approprier ces technologies-là, ne vont pas les intégrer dans leur culture business, c'est de péricliter au plan économique. C'est que là, ils vont perdre leur compétitivité et secteur par secteur, on va se faire bouffer par d'autres. Donc c'est super, c'est stratégique. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est stratégique. C'est pour ça qu'on est là. Si ce n'était pas stratégique, je ne serais pas là à passer du temps dans cette salle chaude avec vous, je vous promets.
Et juste en complément de ce que vous dit Benoît, je pense qu'il faut bien avoir en tête que voilà, on a la capacité, on forme aujourd'hui les meilleurs ingénieurs en IA. Dans le monde, on peut en être fier, on peut le dire. Et on forme aussi, et c'est vous aujourd'hui, c'est vous demain plutôt, les start-up les plus prometteuses qui sont rachetées à coups de millions d'euros par les géants du numérique. Donc il faut bien avoir ça en tête, que même si vous n'êtes pas ingénieur de formation, vous avez cette capacité à vous associer avec des ingénieurs ou à, parce que vous avez cette compétence aiguisée sur ce qu'est l'IA, ce qu'elle n'est pas, à avoir des idées qui peuvent être des idées disruptives sur le marché du travail plus tard. Donc gardez bien ça en tête. Et un autre élément sur cette question, c'est que même si oui, l'Europe n'a pas de géant du numérique comme on l'entend quand on parle de GAFA ou autre, ou d'entreprises de taille moyenne sur ces sujets-là, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, l'Europe joue un rôle clé dans la régulation de la donnée. Il y a eu la RGPD il y a plusieurs années maintenant. Il y a des textes qui sont en train de rentrer en vigueur au niveau de l'Union européenne par rapport à la régulation des systèmes d'intelligence artificielle qui tentent de contrôler, on va dire, leur degré d'explicabilité de ces systèmes. Donc aujourd'hui, l'Europe a un rôle prépondérant dans la régulation de ces systèmes et c'est un élément de réponse à cette question.
Merci.
Il y a plein de volontaires là.
Ma question c'était au rythme où vont les machines. Les recherches qui sont faites aussi dans les domaines quantiques, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'un jour la machine pourrait supplanter l'humain quand même? Je pensais au film Ex Machina par exemple,
Pourquoi, pardon ?
Ex Machina, c'est un film justement avec un robot et une intelligence artificielle qui supplante l'humain. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque et que dans ce cadre-là, il faudrait un cadre régulateur beaucoup plus accru que ce que l'on a encore aujourd'hui ?
Oui, c'est un sujet intéressant, c'est sûr. Moi, je ne peux pas vous faire une réponse théorique, je vais vous faire une réponse personnelle. Je suis très aligné avec quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler de nom, qui s'appelle Yann Lequin. Et Yann dit...
Directeur de la recherche chez Meta.
Directeur de la recherche chez Meta et un copain de plus de 20 ans. Et Yann dit... c'est pas l'intelligence qui est dangereuse, c'est l'intention derrière l'intelligence. Et donc, même si, alors que ni Yann, ni moi, ni plein d'autres n'y croyons, même si on arrivait à des machines qui sont capables de performer de manière large, mieux que des humains, hein, parce que de manière étroite, c'est déjà le cas, les machines battent les meilleurs humains aux échecs, ça y est, c'est réglé, d'accord ? Mais c'est étroit, d'accord ? Si vous vous destinez à un job de consultant, par exemple, vous allez pouvoir utiliser l'IA générative pour faire la synthèse de documents en une fraction de seconde comparé à ce que vous feriez personnellement. Donc que la machine batte l'humain, c'est déjà acquis. Mais qu'une machine universelle développe une sentience, une conscience et une intention de nuire à l'humain sous prétexte d'efficacité, etc., tout ça suppose que ça a été mis dans la machine par des humains. Et donc, est-ce que c'est la régulation qui va nous aider ou bien est-ce que c'est juste l'autorégulation collective qui va empêcher les gens de faire ça On ne le sait pas aujourd'hui. La régulation européenne sur l'intelligence artificielle, dont je vous engage à lire un résumé, c'est vraiment important, ça va faire partie du corpus de connaissances qu'il faut que vous ayez, ça se lit assez facilement, contraint les producteurs de systèmes d'IA et les utilisateurs à un certain nombre de choses en fonction du risque de conflit avec les droits fondamentaux du citoyen européen. C'est-à-dire que si vous faites un système d'IA qui va vouloir tuer des gens, il est interdit. Et s'il est interdit et que quelqu'un vous dénonce, vous allez être obligé de fermer, ce sera fini. Si vous faites un système d'IA qui va discriminer au niveau de l'admission sur un territoire, au niveau de l'attribution d'aide, discriminer, autrement dit, faire des décisions en dehors du cadre réglementaire de préférence, à ce moment-là, vous allez être interdit. D'accord ?
Vous avez posé une double question. Qu'est-ce qu'un apprentissage et quels sont les enjeux liés aux technologies donc, ces deux questions qui émergent aujourd'hui. La première serait un peu théorique, connaître le cerveau humain, et l'autre un peu pratique, comment agir sur le monde. Est-ce que vous auriez des exemples de problématiques un peu concrètes qui mélangent les deux, auxquelles vous êtes confrontés
Donc, apprentissage et
Connaître le cerveau humain par l'intelligence artificielle et réguler l'intelligence artificielle potentiellement par rapport aux risques qu'on évoquait, la responsabilité humaine. Enfin, il y a un enjeu de connaissance et un enjeu de responsabilité.
Oui, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, donc je ne suis pas d'une grande aide.
De ce que je comprends. Aujourd'hui, oui, il y a une vraie volonté de comprendre au maximum, de manière la plus fine possible, le fonctionnement du cerveau pour essayer de dupliquer, et ça c'est une partie, une branche de l'intelligence artificielle, pour essayer de dupliquer et essayer de reproduire cette approche neuronale. Il y a plein de limites à cela. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez performantes en termes de complexité de pensée, mais aujourd'hui, on est vraiment sur la science expérimentale qui est de dire est-ce qu'on est en capacité de répliquer le cerveau. Benoît l'a dit et largement dit, aujourd'hui, on est très, 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 très loin d'avoir cette capacité De par l'architecture des systèmes, c'est même pas des questions de puissance de calcul. C'est aujourd'hui la manière dont sont architecturés ces systèmes, à part des architectures en bits, c'est impossible. C'est tout simplement impossible de mettre en relation tous ces neurones avec tous les capteurs. On parlait de la chaleur dans la salle, on parlait tout un tas de capteurs liés à votre culture, à votre connaissance approfondie ou non de certains sujets et comment ça se relie à des expériences que vous avez vécues dans le passé. C'est simplement aujourd'hui impossible de modéliser ce type de complexité neuronale. Il y a des gens qui travaillent sur des modélisations de complexité neuronale, mais à aucun moment on arrive à quelque chose qui est proche de la modélisation du cerveau humain.
Oui, et pour reprendre ce fil-là, et je suis désolé, peut-être que j'avais mal entendu certaines parties de la question. Il y a une variable importante quand on réfléchit à ces choses-là, c'est le coût énergétique par unité de calcul. Et quand on compare les meilleurs systèmes aujourd'hui automatiques avec le cerveau humain, on est dans un ordre de grandeur de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de millions. C'est-à-dire que le cerveau humain consomme des centaines de millions de fois moins d'énergie pour arriver à fonctionner que ce que nos ordinateurs arrivent, comme ChatGPT, pour juste comprendre le langage. Et donc cette simple différence montre à quel point on n'est pas prêt d'y arriver. Parce que si pour être aussi bon qu'un humain, il faut ChatGPT à la puissance 10, et ben cet humain artificiel-là va consommer toute l'énergie disponible sur la planète juste pour devenir aussi bon qu'un humain, peut-être, peut-être pas. Et je veux dire que les garde-fous sont là. Pour donner une analogie, je ne sais pas si ça va vous parler, mais... j'aime bien ça, pour caractériser où est-ce qu'on en est. Le cerveau humain, c'est le paysage que vous voyez, d'accord ? Vous êtes dans les Alpes et vous voyez très loin, vous voyez un paysage très complexe, d'accord ? Les tout premiers systèmes informatiques étaient capables de faire une peinture grossière du paysage. Mais jamais vous diriez que cette peinture grossière, c'est le paysage en lui-même. Ensuite, d'autres systèmes sont arrivés. Et l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est une analogie, hein, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce serait comme si vous preniez une photo à haute résolution du paysage. Et donc, quand vous la voyez comme ça, vous dites « Ah ouais, c'est pas mal ». Mais si vous regardez derrière, « Ah oui, mais il manque quelque chose quand même ». D'accord ? Et donc, arriver, pour l'IA, arriver à imiter le cerveau humain, ça veut dire arriver à recréer intégralement le paysage dans toutes ses composantes. D'accord ? C'est juste pour vous donner une idée des échelles de complexité qu'on oublie trop souvent quand on parle de ces choses-là, parce qu'on a un biais de perception, c'est-à-dire que ça donne l'apparence du fonctionnement du cerveau humain. On oublie de regarder ce qu'il y a derrière. On se dit, ah ouais, mais si on en est là aujourd'hui, paf, demain on va être là. Ben non, demain on ne va pas être là, parce que la complexité qui est là est telle qu'on n'y arrivera pas demain.
Une dernière question ?
Oui, okay. Oui.
La toute dernière.
Bonjour.
On vous dira qu'après qu'on conclura avec une ouverture possible.
Vous expliquiez le lien entre la data, pardon, l'accessibilité de la donnée et l'intelligence artificielle. Et ensuite que bah, du coup, il va y avoir une modification de la stratégie de l'entreprise tournée autour de cette data. Est-ce qu'on peut imaginer que bah, justement le fait que les entreprises rendent leurs données sensibles moins accessibles, ça limite l'utilisation en tout cas les possibilités offertes par l'intelligence artificielle.
Ouais, encore une très bonne question. Merci de l'avoir posée. La réponse est oui. La réponse courte est oui. C'est-à-dire que plus une entreprise va vouloir garder ses données pour elle-même, plus ça va être compliqué pour elle de bénéficier de l'intelligence artificielle. Heureusement, il y a deux angles qui se développent. Il y a, pour les entreprises qui n'ont pas assez de données en elles-mêmes, il y a ce qu'on appelle les communs de données, les data commons en anglais, qui sont un sujet complexe, mais l'idée c'est de voir si des entreprises peuvent pas, même concurrentes, peuvent pas mettre leurs données sous une certaine forme en commun, de manière à ce que toutes puissent bénéficier d'apprentissage automatique sur ces jeux de données. La deuxième réponse actuelle, émergente, c'est l'utilisation de données synthétiques. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA pour créer des jeux de données qui ont les mêmes caractéristiques que le petit exemple qu'on a, tout en injectant, en ayant étudié ça dans différentes organisations, tout en injectant suffisamment de variabilité pour que le set final soit indiscernable d'un jeu réel, y compris avec ses outliers, etc. Donc il y a des pistes, mais oui, c'est un vrai sujet pour l'IA. Et je suis ravi que vous ayez posé cette question en dernier, parce que un des messages qu'on voulait vous passer en conclusion, c'est que quand vous entendez parler d'intelligence artificielle, pensez données. Il n'y a pas d'IA sans données. Et c'est ça le lien avec tous vos métiers, que vous fassiez du marketing, que vous fassiez quel que soit ce que vous allez faire, du management, etc. Tout ça va passer par la donnée. Et la donnée, il va falloir la prendre quand elle est disponible. Sinon, il va falloir la créer, la susciter en instrumentant, comme on dit, les processus d'entreprise. Et puis, il va falloir s'en occuper. C'est la gouvernance dont Julien parlait, etc. Et c'est là que vous êtes attendu. Parce que c'est ça la clé du succès. Ce n'est pas le fait de maîtriser la manière dont fonctionne telle ou telle plateforme. C'est de vous assurer que vos organisations ont les données dont elles ont besoin pour leverager la puissance de l'intelligence artificielle. Voilà, en conclusion, on voudrait vous passer juste deux petites invitations. La première, c'est que le MetaLab organise de manière continue, et Déborah ici en est la grande ordonnatrice, un think tank étudiant qui s'appelle MetaLab Ideas, où il y a un board éditorial composé d'étudiants qui publie, qui développe et qui publie sous notre contrôle assez léger finalement, parce qu'on a vu que la qualité était très bonne, et un mécanisme d'auto-régulation et d'auto-relecture qui est très bon, publie des articles qui sont publiés sur le site web du MetaLab. C'est réservé aux étudiants, c'est pas des articles scientifiques, c'est des articles de vulgarisation sur des sujets de type IA, métaverse, données, Bitcoin, tous ces sujets tech et société, si vous voulez. Je vous invite à aller voir sur le site web du MetaLab, metalab.sec.edu, pour vous rendre compte un peu de ce que des étudiants comme vous produisent. Alors, vous êtes, il n'y a pas de pression, il n'y a rien d'obligatoire, c'est hors curriculum, mais si ça vous intéresse, rapprochez-vous du MetaLab, IDEAS, du think tank, et laissez mûrir les choses, et peut-être que vous vous sentirez un jour ou l'autre l'envie de proposer un article, et on serait absolument ravis. Donc ça, c'est la première chose, metalab.sec.edu sur la page IDEAS. Et la seconde chose, c'est qu'avec Julien, on s'est dit que si parmi vous, il y en a qui sont intéressés pour continuer cette conversation, envoyez-nous un petit mail. On va laisser les mails arriver pendant 2-3 jours. Et d'ici la fin de la semaine, peut-être, une fois qu'on aura les noms de ceux qui sont intéressés, on verra aussi ce que vous voulez discuter avec nous. On organisera une autre session en comité plus restreint pour aborder les sujets que vous voudrez, histoire de vous aider à bien démarrer sur l'angle data et IA votre scolarité à l'ESSEC. Merci beaucoup.